dans notre cas, c'est comme si Chérif et Office Vibe étaient arrivés juste au bon moment, de manière à ce que les deux aient une place de choix dans l'organisation et qu'on soit amené à investir de manière substantielle dans les deux, parce que les deux avaient du momentum en même temps. Fait que c'est dur d'en avoir un à succès. Nous, on a réussi à en avoir deux à succès et là, on est en mode, on veut en construire d'autres, mais c'est tout aussi difficile, là, je tiens à le dire.
C'est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 206e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que le groupe G7 qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook qui sort tous les mercredis matin, et Commercialite, un podcast 100% orienté commerce électronique qui sort tous les mardis matin. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de débuter l'année en force, venez discuter en direct avec moi sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. 100 millions US en chiffre d'affaires à l'année. Une suite de produits technologiques utilisés par des entreprises dans les quatre coins du monde. Une culture RH qui sort de l'ordinaire. Les mots commencent même à nous manquer pour décrire les exploits que GSoft accomplit avec l'ensemble de ses entreprises. L'année dernière, on avait d'ailleurs eu la chance d'avoir un entretien davantage orienté produit avec un des cofondateurs, Guillaume Roy. Aujourd'hui, on s'attaque davantage à la vision affaires avec leur CEO, Simon Desbène. Le groupe montréalais qui connaît beaucoup de succès avec les logiciels ShareGate, Office Vibe ou encore SoftStart vient de faire l'acquisition de l'entreprise Didact. La croissance par acquisition, qui n'était pas dans les plans du groupe, s'est finalement révélée une approche gagnante pour les associés qui n'ont pas terminé de créer. Vous apprendrez d'ailleurs dans le podcast qu'ils sont à quelques semaines seulement de lancer un nouveau produit technologique. Et en plus d'acquisition et de création d'organisation, on parle de la transition qu'ils ont fait du service au produit et également du changement qu'ils ont opéré en ce qui concerne la culture reliée au bureau. Un entretien de plus de 1 heure qui risque de vous donner la motivation nécessaire pour bien débuter la semaine. Sans plus attendre, ma discussion avec Simon Desbène. Simon Desbène, tu es le cofondateur et CEO de GSoft, une organisation qui regroupe 4 produits technologiques très en vue dans le domaine, et j'ai nommé ShareGate, Office Vibe, SoftStart et tout récemment Didact, qui provient d'une acquisition. Lancée à la base comme une entreprise de service, votre organisation s'est transformée en étant strictement orientée vers la commercialisation de ses propres logiciels et génère, au moment où on se parle, plus de 100 millions de dollars US à l'année. Simon Desbène, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là.
Et Simon, avant de rentrer dans la discussion du jour qui portera sur la transition de service à produit, encore sur la croissance par acquisition, parce que ça a été votre premier achat que vous avez fait récemment, est-ce que c'est possible peut-être pour toi d'expliquer à notre audience la mission de GSoft au quotidien?
Oui, chez GSoft, on veut rendre le travail plus simple, humain et efficace. Ça, c'est notre mission. Pour ça, on bâtit des logiciels, différents logiciels, tu les as nommés, là, on en a 4, on va bientôt en lancer un nouveau. Et c'est tous des logiciels qui se rassemblent autour de l'expérience employée. Donc, l'expérience du travail, là, ce qu'on vit au quotidien quand on va travailler, c'est un spectre qui est quand même assez large. Et au fil des ans, on a bâti des logiciels qui se sont inscrits à différents endroits sur ce spectre-là. C'est ce qui nous occupe au quotidien. Puis depuis vraiment jour 1, c'est le monde du travail qui nous passionne chez GSoft. On veut mettre les bonnes technologies entre les mains des organisations pour aller chercher le meilleur de chaque personne. Puis ça serait de te mentir que ça a toujours été aussi clair pour nous. On a parti de GSoft en voulant amener un vent de fraîcheur dans le monde des TI parce qu'on trouvait que c'était gris un peu. Il y avait beaucoup de tapis gris, des cubicules gris, des humeurs grises. Et au fil des ans, GSoft s'est tourné, au début c'était les TI en général, puis on s'est tourné vraiment vers le monde du travail au sens large. Et c'est sûr que pour nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est toutes les gens qui, on les appelle les travailleurs du savoir, ceux qui sont assis devant un ordinateur, Il y a tellement à bâtir pour eux et je crois qu'on en a pour très longtemps à être très occupés.
Bien sûr. Puis, pour les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, sachez qu'il y a environ un an de ça maintenant, j'ai eu la chance d'interviewer le partenaire en affaires de Simon Guillaume, qui était venu sur le balado, un entretien excessivement fascinant qui était davantage orienté vers la conception de produits, qui est un peu, je crois, le rôle de Guillaume dans l'organisation qui est chef des produits chez GSoft. Aujourd'hui, nous, on va parler un petit peu plus business. C'est un des points que j'aimerais clairement discuter avec toi aujourd'hui, qui est totalement exceptionnel dans l'évolution de GSoft, Simon. C'est votre transition de service à produit. Et bon, pour les gens qui ne le savent pas, et peut-être tu pourras en parler quelque peu par la suite, vous êtes une organisation qui, à la base, a été lancée dans la prestation de services. Vous avez fait plusieurs années en créant des logiciels, en aidant vos clients à ce niveau-là, jusqu'à, ultimement, commercialiser vos propres produits. Et j'ai écouté un entretien que tu as fait avec Jonathan Léveillé, qui est co-animateur sur le podcast Hypercroissance les jeudis avec moi. Ça a pris du temps, cette transition-là. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Peux-tu nous en parler un petit peu et par la suite, on pourra décortiquer cette transition-là ensemble?
Oui, ben c'est sûr que, retournons 17 ans dans le passé, ouais, on avait tous 20 ans. Guillaume, qui était avec toi l'année passée, et moi, on était assis à l'ETS et puis à un moment donné, bon, on a décidé de se lancer en affaires. Puis, on avait cette idée-là d'amener un vent de fraîcheur dans le monde des TI. Puis, tu sais, c'est des grandes idées parce qu'autour de nous, pour le peu qu'on avait vu, on trouvait qu'il y avait beaucoup à faire. Puis, on croyait qu'on avait le potentiel de pouvoir changer ça. Puis c'est sûr que quand on est sorti, on est allé incorporer l'organisation. On est allé chez le comptable. Et il nous a remis le gros cartable noir, là, c'est comme le livre des minutes. Puis là, c'est comme le moment où est-ce que les choses deviennent vraies. Puis c'est comme, OK, maintenant que tu as ta grande idée, là, qu'est-ce que tu vas faire au quotidien pour payer tes billes à la fin du mois? Et c'est là que c'est un peu un, OK, ben, c'est bon, on avait une grande idée, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est sûr que du haut de nos 20 ans et de zéro expérience, on se trouvait très bon à l'école. Puis je pense qu'on se débrouillait quand même bien en ingénierie logicielle. On s'est dit, ben regarde, on va utiliser notre savoir-faire technologique, puis on va le vendre à quiconque a envie d'avoir cette aide-là technologique. Et un peu naturellement, puis c'est sûr que c'est un peu la voie évidente pour des gens qui sont en technologie, d'aller faire du service. Ça nous a permis initialement de grandir rapidement, d'être chez des clients, de voir qu'est-ce qui se passe, de comprendre cet univers-là. Moi, avant de lancer GSoft, je travaillais chez CGI. J'étais au support technique. Ça m'a permis quand même de comprendre c'était quoi l'impartition technologique, puis un peu de voir à quoi ça ressemblait l'univers des TI au Québec. Et après ça, avec le lancement de GSoft, ça m'a permis d'être sur le terrain carrément chez les clients, d'aller bâtir de la technologie pour eux. Et au fil des ans, on a eu la chance de travailler sur des super beaux projets. Je veux dire, on a travaillé dans des compagnies d'assurance, dans des banques, dans des mom and pop shops, dans plein. On a touché à tous les domaines. On n'a jamais eu d'allégeance avec qui que ce soit. Et puis c'est sûr qu'au fond de nous, on avait cette petite voix là qui nous disait, ah, c'est le fun de bâtir les idées des autres, mais c'est encore plus fun de bâtir ses propres idées. Et c'est sûr qu'on le savait en nous, qu'on avait le talent, le savoir-faire pour bâtir du produit, mais évidemment, ça prenait la bonne idée. Et quelques années après la fondation de GSoft a été fondée en 2006, fait qu'on arrive environ en 2009, partenaire d'affaires, cofondateur Sébastien Leduc revient d'une genre de petite conférence dans laquelle il avait vu quelque chose qui l'avait vraiment interpellé. Il revenait au bureau, tout excité, puis il nous dit: hey gang, je pense qu'il y a vraiment de quoi bâtir. Ça n'a pas de bon sens comment c'est compliqué de faire ça. Pourquoi on bâtit pas un produit pour ça? Et ça a même pas pris quelques minutes. On était comme go, on le fait. Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'avec la filiale de service, on avait réussi à accumuler du capital qui nous permettait ensuite d'investir dans le développement produit. Parce qu'aujourd'hui, là, tu sais, tu pars ton entreprise, demain matin, tu veux bâtir un produit. C'est pas évident, là. Faut aller chercher le talent en premier. Faut aller chercher aussi le capital. Tu sais, comment tu vas faire pour payer le talent qui va venir t'aider? payer toutes les technologies, le storage, le cloud, name it, là. Il y a plein de choses qui peuvent... La facture s'allonge rapidement. Et nous, ben, on avait la chance d'avoir GSoft Service qui fonctionnait super bien. Ça l'a financé ShareGate, qui a été le premier produit qu'on a lancé chez GSoft. À la base, aujourd'hui, juste pour rapidement pour que les gens comprennent, la plupart des gens ici, probablement, qui utilisent soit Office 365 ou Google Workspace. C'est un des deux. Ils ont à peu près 99% du marché, ces deux plateformes-là. Et Office 365 a encore une plus grosse pointe de la tarte. Avant, dans le temps, là, on remonte pas à très longtemps, là, il y a une dizaine d'années, Office 365, ça s'appelait SharePoint. Et SharePoint, c'était très, très hot dans les entreprises, un peu partout dans le monde. Et heureusement et malheureusement, SharePoint, à tous les 3 ans, il y avait une nouvelle version qui sortait. Et ça venait avec aucun outil pour déplacer tout ton contenu d'une version à l'autre. Fait que nous, on a décidé de bâtir ShareGate qui servait à déplacer tous tes documents d'un environnement, d'une version à une nouvelle version. Et ça a été le premier produit qui nous a mis au monde. Et là, là, je le raconte vite, là, puis ça a l'air d'une belle histoire qui a fonctionné du premier coup. Mais ShareGate, ça a été un flop total. C'est le premier produit qu'on a lancé. On l'a lancé quelque part en 2009. Après 2 ans, on avait à peu près 4 clients, dont 2 qui étaient des clients qu'on connaissait, qui l'avaient acheté pour nous faire plaisir, et 2 autres qui étaient quelque part dans le monde, qui avaient jamais vraiment essayé le produit. Je pense qu'ils l'avaient acheté par erreur. Fait que c'était littéralement un flop. Et le produit, il fonctionnait pas bien. On a décidé de le refaire au complet en l'espace de 3 mois. Et on l'a relancé au marché en 2011. Tranquillement, pas vite, ShareGate a commencé à prendre son envol. Et avec SharePoint, qui était la plateforme initiale qu'on était complètement focus, graduellement, c'est transformé en Office 365. C'est comme les as se sont mis. Et on s'est retrouvé à être une des technologies qui aide le plus. On doit être dans en fait, je pense pas, je le sais, un des produits qui a aidé un plus grand nombre d'organisations à déplacer tout leur contenu pour pouvoir déployer le cloud de Microsoft et pouvoir changer leur façon de travailler dans leur organisation. Fait que, produit qui est parti de rien, qui s'est complètement échoué, on était à un cheveu de le mettre à la poubelle. Si je me rappelle, on était assis les partners ensemble, pour être comme, OK, ça fait 2 ans qu'on perd de l'argent là-dedans. Ça a ramené 4 clients, ça marche pas. Puis c'est sûr que la réponse logique à ça, c'est de dire, ben, passe à autre chose. On le jette. Puis, tu sais, il y aura une nouvelle idée qui sera peut-être bonne. Et je me rappelle, j'ai insisté. Je suis comme, hey, je pense qu'il y a quelque chose. Puis honnêtement, j'avais pas vraiment de data pour prouver ça. C'était de l'intuition, c'était du feeling. Puis on s'est dit, OK, good, on le refait, on se redonne une autre chance. Et ça a été le succès de ShareGate. Fait que graduellement, c'est à partir de ce moment-là, à partir de 2009, graduellement qu'on s'est transformé à devenir une entreprise de produits. On a décidé de conserver la filiale de service en parallèle parce que c'est comme un filet de sûreté. C'est non seulement on avait des bons clients, ça allait bien, mais c'était rassurant de savoir que c'était là.
C'est ton ange investisseur un peu.
Ben c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu besoin d'aller convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans notre bébelle, parce qu'au début c'était vraiment une bébelle, ça fonctionnait pas. Puis je pense pas qu'un investisseur aurait mis quoi que ce soit dans ShareGate pour ce que c'était à l'époque, et surtout pour ce que ça avait démontré après 2 ans. Fait que ça a été on était chanceux d'avoir nous-mêmes le capital pour le faire. Puis ShareGate, ben c'est pas devenu un succès du jour au lendemain non plus. Une fois qu'on a essayé de le jeter à la poubelle, on l'a recommencé. On s'est donné 3 mois pour le remettre dans le marché. Et après ça, 1 mois plus tard, je me rappelle, il y a un client qui est comme une filiale de la NSC aux États-Unis qui a acheté 10 licences d'un seul coup. Boom! Fait qu'en un seul mois, on avait déjà vendu plus de licences qu'on l'avait fait en 2 ans. Et après ça, ben, cricket sound, on n'entend plus rien. On entend juste les criquets. Puis le mois d'après, ben, OK, il y a un autre client qui l'achète. Puis le mois d'après, ben, là, il y en a 2. Puis là, le mois d'après, il y en a 3. Fait que c'est hyper lent. Mais, lentement, mais sûrement. Et à un certain point, ben, il y a eu un momentum qui s'est installé. Bouche à oreille. Le produit a du succès. Le produit fonctionne bien. Les gens l'apprécient. Il est simple. Il est très disruptif dans son univers. Mais je sais que Guillaume en avait parlé, mais on est vraiment arrivé avec un produit qui défiait un peu les normes établies de ce que ça devait être un software à cette époque-là. Et c'est là qu'on rentre dans la conversation du product-led growth que Guillaume a parlé. Puis je vous conseille de regarder d'écouter le podcast. Mais à un certain point, ShareGate s'est envolé. Puis je dois dire que le bouche-à-oreille a beaucoup, beaucoup aidé pour ce produit-là. Et à travers l'histoire de ShareGate, bien, en parallèle, il y a eu Office Vibe. Puis, est-ce que c'était voulu qu'on lance un autre produit? Tu sais, des fois, la vie t'amène quelque part, tu sais pas pourquoi, mais Office Vibe avait sa place. On avait envie de le lancer. Puis, la chance qu'on a eue, je l'ai compris quelques années plus tard, c'est que Office Vibe, on l'a commencé en 2013. En 2013, ShareGate n'était pas encore un succès. Ça commençait. Fait que dans notre tête, on était encore en mode, faut créer quelque chose, qui va nous donner une place dans le monde des affaires. On veut avoir du succès avec un produit. ShareGate commence à pick up tranquillement. Office Vibe, bonne idée. Le timing a l'air bon. On sait qu'est-ce qu'on a envie de bâtir. Go, on le fait en parallèle. Et c'est comme si, vu qu'ils sont partis assez tôt les deux en même temps, c'est comme si les deux avaient eu un espace pour grandir au sein de GSoft. Parce que le danger, là, c'est que quand tu as un produit à succès, le succès, c'est un couteau à double tranchant parce que ton succès va siphonner toute l'énergie que tu as. C'est tellement difficile de simplement le maintenir qu'une fois que tu en as un entre les mains, essayer d'en créer un nouveau. Puis c'est pour ça qu'on parle souvent que c'est difficile de se réinventer en entreprise. Pourquoi on parle des grandes entreprises qui ont souvent de la misère à amener des nouvelles choses, des nouveautés dans le marché? C'est parce qu'ils sont un peu emprisonnés de leur passé. Ils sont accrochés à leur succès passé, puis ça tout gravite autour de ces succès-là. Puis nous, dans notre cas, c'est comme si ShareGate et Office Vibe étaient arrivés juste au bon moment, de manière à ce que les deux aient une place de choix dans l'organisation et qu'on soit amené à investir de manière substantielle dans les deux, parce que les deux avaient du momentum en même temps. Fait que c'est dur d'en avoir un à succès. Nous, on a réussi à en avoir deux à succès, et là, on est en mode, on veut en construire d'autres, mais c'est tout aussi difficile, je tiens à le dire.
Puis on en parlera un petit peu plus tard de tout ça. Mais il y a un point que j'aimerais prendre un tout petit peu de temps avec toi, Simon, ici. Tu as fait la transition. La transition a été complexe, tu l'as mentionné. Mais vous avez réussi. Tu as de l'expérience, tu as du recul maintenant. Un propriétaire d'entreprise de service qui nous écoute aujourd'hui, qui a pris la décision, qui se donne du temps, qui est pas nécessairement dans l'optique d'avoir du succès demain matin, qui va garder son entreprise de service pour l'utiliser un petit peu comme ange investisseur, l'analogie que je reprends ici. Quelles seraient les étapes? On peut rester à 30 000 pieds dans les airs ici, bien entendu, mais quelles seraient les étapes que tu recommanderais à ce propriétaire d'entreprise de service-là qui veut faire la transition?
Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui est la même, il n'y a pas une recette qu'on peut suivre et se rendre tout le monde au même point. Chacun développe un peu sa recette, mais évidemment, il y a des patterns, il y a des choses là-dedans. Dans notre cas, la transition service, on est extrêmement intentionnel, délibéré dans notre... Quand on s'est dit on lance un produit, ben, tu sais, des fois en service, on a des temps morts, on a moins de projets à un certain point. Fait que là, on appelait ça, t'as du monde sur le banc. Le banc, c'est comme, ben, t'as pas de clients, fait que, en attendant, ben, tu dis aux gens, fais de la formation, fait que tu les occupes parce que tu veux pas congédier les gens quand t'as pas de projet. L'idée, c'est de toujours avoir assez de projets pour occuper les gens. Puis ce que j'ai entendu souvent, c'est que les gens attendent ces périodes mortes-là pour se dire, OK, là, on va développer un produit. Puis là, un mois plus tard, mais là, t'as un gros client qui arrive avec un beau projet, puis là, tu fais, ah, OK, tout le monde, lâchez le produit, on s'en va. Il y a comme un appât du gain, court terme, rapide. On a un beau projet, un bon client. Ça va rapporter gros. Chez GSoft, on a décidé vraiment de mettre l'équipe en place. Il y avait absolument rien qui pouvait briser cette équipe-là. Fait qu'on, il y avait une séparation entre l'équipe de service, t'as l'équipe de produit. Et on s'amuse pas à promener les gens d'une équipe à l'autre. Ça prenait de la stabilité. Ça prenait des gens qui étaient dédiés, concentrés. Parce que bâtir un produit sur le coin d'une table à temps partiel, ça ne fonctionne pas. Honnêtement, jamais entendu parler d'une histoire à succès. C'est tellement difficile et demandant, tu peux pas le faire sur le coin d'une table, tu peux pas le faire à temps partiel. Fait que dans notre cas, ça a été un dévouement total d'une portion de l'équipe Et comme entreprise de service, on acceptait que la profitabilité de l'entreprise allait écoper. C'est sûr qu'il faut que tu écopes à court terme si tu veux en faire plus à long terme. C'est ça, tu vas avoir des gens qui se font pas sur le terrain chez des clients en train de biller, mais ils vont être en train de bâtir un produit qui va peut-être te rapporter quelque chose dans plusieurs années. Puis je tiens à le dire ici, ça a pris, l'exemple de Sharegate, ça a pris 4 ans et 1 mois avant que Sharegate soit break-even. Fait qu'on parle d'être à zéro, là. Fait que ça prend du temps. Faut que tu acceptes que ça va prendre du temps. Il y a aussi le bon ratio, là. Je parlais tantôt qu'on avait jeté, en fait, Office Vibe et Sharegate, on les a jetés à la poubelle, on les a recommencés, les deux. Dans le cas de Sharegate, la première fois qu'on l'avait fait, c'était un trip technologique. Fait que c'est comme, nous, on voulait faire un produit, mais on était une gang spécialisée en ingénierie logicielle. On aime bâtir du software, on aime la technologie. Mais un produit, ça peut pas être un trip technologique. Faut que tu essaies de régler un problème. Faut que tu t'intéresses à l'utilisateur, au client. Faut que tu fasses du marketing, faut que tu fasses de la vente, faut que tu fasses du support. Fait qu'on s'est donné, quand on l'a refait, on s'est donné des meilleurs ratios pour pas justement tomber dans le piège de que bon, on va bâtir un beau logiciel puis tout le monde va venir magiquement l'acheter. Ça fonctionne pas comme ça. Et aussi la passion du marché, c'est tellement tellement demandant, je le répète, faut que tu sois passionné parce que t'essayes de bâtir. Ça peut pas être juste une opportunité. Si t'es trop opportuniste à bâtir quelque chose, tu réussiras jamais à trouver l'énergie en toi pour être capable de faire ça pendant 5 ans. Tu vas te tanner avant ça. Fait que c'est sûr que tomber en amour avec le problème, c'est nécessaire si tu veux trouver le courage de te lancer dans cette aventure-là qui malheureusement, les stats, t'as plus de chances de frapper un mur que de cogner un cercle. Soyons juste très clairs. Mais pour que quelques succès émergent, ça prend des gens qui essayent. Fait que tomber en amour avec le problème, puis tu sais, de le faire, là, tu sais, il y a pas de solution miracle, là. Fait que faut que tu te lances, faut que tu le fasses. Il y a pas de meilleur moment pour le faire. L'idée, c'est de le faire, puis d'être capable de le faire à répétition, puis d'être capable aussi de pivoter en chemin, de trouver la bonne solution du premier coup. Ça arrive rarement. Fait que faut que tu aies cette capacité-là à justement pas tomber en amour avec la solution, mais surtout avec le problème. Fait que si c'est le problème...
Quel processus?
Ben, quand tu passes 2 ans à bâtir quelque chose, là, c'est sûr que tu tombes en amour avec ce que tu as bâti. Puis des fois, cette chose-là est pas tout à fait la bonne. Fait que des fois, faut que tu t'en débarrasses et tu recommences autre chose. Fait que d'être capable d'avoir ce recul-là pour prendre ces décisions-là, de cadre de pivoter en chemin. Fait que service à produit, là, je pense que le gros avantage, c'est la source de capital. Ça, c'est énorme. Puis ça, c'est souvent le frein de beaucoup de gens. Tu sais, avec quoi je fais? Fait que c'est déjà un méchant bon début. Mais après ça, c'est d'être capable de dire, ben peut-être que j'irai moins en voyage ou je vais pouvoir moins me gâter dans la prochaine ou dans les prochaines années. Mais c'est des choix que tu dois faire, des choix de vie. À un moment donné, c'est faut que tu acceptes de perdre à court terme pour peut-être gagner à long terme. Ça se peut que tu gagnes rien à long terme. Fait que c'est un
pensez-y bien. Mais dans tous les cas, c'est une approche qui est excessivement intéressante sur le long terme parce qu'en date d'aujourd'hui, vous contrôlez votre équité. Vous contrôlez votre équité et combien d'entrepreneurs technologiques ou dans d'autres types de catégories d'entreprises qui ont besoin de lever des sommes colossales au départ se doivent de dire adieu à 10, à 20, à 30, à 40, à 50 % des fois pour avoir les sous nécessaires et bâtir ce projet technologique. Ça a un impact, j'imagine, incroyable dans vos vies aujourd'hui de posséder autant de vos différentes organisations.
Oui, ben tu l'as dit au début, on appelle ça bootstrapped, autofinancé. Donc, à ce jour, GSoft est 100% indépendant. On est 3 propriétaires, Sébastien, Guillaume et moi. Tu sais, est-ce que c'était voulu? C'était pas voulu. Tu sais, on a lancé l'entreprise comme compagnie de service. Fait qu'on n'avait pas besoin. Tu peux pas lever de l'argent quand tu offres du service. Puis, anyway, tu factures aux 30 jours, paiement.
Il y a un problème. il y a un problème. Si tu lèves de l'argent en service, il y a un problème.
Ben, c'est pas supposé, là. Je veux dire, c'est assez simple. Si t'as un bon service à offrir, bonne qualité, t'es fiable. Je veux dire, la demande, il y en a en masse. Fait que c'est pas un modèle qui est risqué. Et nous, je veux dire, si on m'avait donné des sommes colossales quand j'avais 20 ans, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait avec. Ça aurait pas été une bonne idée, je pense. Fait que je suis comme content qu'on m'ait jamais donné cet argent-là. Tu sais, souvent, on entend c'est des histoires romancées, là, mais des histoires de la Silicon Valley avec des jeunes de 20 ans qui reçoivent 450 millions. Là, t'es comme, God, hein? Moi, je me remets dans ma tête de 20 ans, là, j'étais pas du tout là, là. Vraiment pas. Fait que, puis j'ai aussi un petit traumatisme plus d'enfance. Là, mon père m'a toujours répété que la seule dette que j'avais le droit d'avoir, c'était ma maison. Fait que c'était comme un... Il me l'a tellement répété parce qu'il voulait tellement pas qu'on s'endette que je pense que ça m'a conditionné à juste comme, hey, si on a les moyens, on va le faire nous-mêmes. Fait que par la force des choses, par la nature de la business en 2006 qu'on était, toutes ces choses-là nous ont amené à pouvoir nous autofinancer avec depuis jour 1. Mais c'était vraiment dans un mindset. Moi, j'ai été beaucoup influencé par Jason Fried de Basecamp, qui est un entrepreneur américain très anti-establishment. Il a toujours été un grand fan.
Des excellents livres qu'il a écrit d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent. Son livre sur le remote work et son livre Rework. Deux excellents livres que je conseille à tous les gens qui nous écoutent.
Vraiment. Moi, ça, c'est sûr que quand j'étais jeune, tu sais, Jason Fried, tu sais, je buvais le Kool-Aid en malade, mais je suis content de l'avoir lu parce qu'il m'a comme convaincu que être petit, là, être une petite équipe, ben, tu peux faire des grandes choses avec ça. Puis du capital, mais si tu n'as pas nécessairement besoin, tu n'es pas nécessairement obligé d'aller le chercher. Il y a d'autres chemins que ceux qu'on est peut-être plus habitué d'entendre parler. Fait que dans notre cas, ben, ça nous a permis de s'autofinancer, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le recul, avec l'expérience, je comprends maintenant que le capital est un levier. J'ai des notions business beaucoup plus développées pour... T'sais, aujourd'hui, donne-moi de l'argent, je vais être pas mal plus smart avec que si on me l'avait donné à 20 ans. Et je comprends aussi qu'il y a des modèles d'affaires et des business qui ont besoin de passer par là. Fait que pendant un certain temps, je jouais un peu au rebelle là, qui a ceux qui lèvent là. Tu sais, je pensais juste la jeunesse. Là. Des fois, on aime ça être plus rebelle qu'on devrait l'être. Mais aujourd'hui, ben ça fait en sorte qu'on est maître de notre destinée. Quand on a des idées, ben on peut se lancer dans nos idées sans avoir besoin de convaincre plein de gens d'embarquer. Mais ouais, c'est tellement rare dans notre domaine que on dirait que je n'ai jamais à qui en parler parce qu'on est comme une drôle de bébête, là. Je nomme-moi des entreprises comme ça que tu connais. Je veux dire, la seule que je peux penser, c'est Mailchimp.
Mailchimp, effectivement. Mais au volume que vous êtes pas beaucoup, là. Tu sais, vous avez franchi la barre des 100 millions de revenus annuels. Vous êtes en technologie. Vous êtes dans un domaine où est-ce que les valorisations, les multiples sont exceptionnelles. Et vous possédez votre capital, c'est fabuleux, c'est tout à votre honneur. Et je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent comprendre à quel point que c'est rare et que c'est fabuleux que vous soyez québécois. Parce que vos produits sont vendus à travers le monde entier. À mon avis, je veux dire, c'est clairement pas au Canada que vous allez chercher vos plus grandes parts de marché. Peut-être que vous avez certains clients au Canada, mais ça doit être dans d'autres types de pays. Vous avez l'actionnariat qui est ici. Vous continuez à bâtir d'autres produits. C'est exceptionnel. Puis j'aimerais peut-être faire une petite transition, Simon, ici, sur un point. On vous voit beaucoup dans les médias, dans les interviews que vous donnez peut-être sur des podcasts, les gens chez GSoft. Où est-ce que la marque employeur, clairement, c'est ce qui vous définit, c'est votre branding, c'est comme ça qu'on comprend rapidement qu'est-ce que GSoft. La question pour toi, davantage à faire ici, stratégiquement parlant, à quel point vous l'utilisez, cette marque employeur-là, pour faire peut-être des acquisitions d'entreprises comme vous avez fait récemment, pour aller chercher plus de clients, pour apparaître dans certains médias qui, au final, va donner de l'exposition à vos différents produits. Je serais curieux de t'entendre sur cet aspect stratégique marketing autour de la visibilité que vous obtenez grâce à votre marque employeur.
C'est une bonne question. Je vais être quand même honnête avec toi. Ça nous a joué un tour un peu d'avoir... dans le sens que je suis extrêmement fier de ce qu'on est, qui on est, puis ce qu'on bâtit, puis vraiment une belle équipe. Puis je veux dire, je pense qu'on...
je pense qu'on se démarque, on va continuer de se démarquer avec notre marque employeur, définitivement. Mais à un certain point, GSoft était plus connu pour sa marque employeur que pour ce qu'on faisait. Et ça a créé un déséquilibre qui était pas en notre, à notre avantage. Fait que les gens, ils nous connaissaient, mais ils savaient pas ce qu'on faisait. Fait que c'est cool, ça flatte l'ego un peu, mais à quel point ça nous aide à être une business qui est vraiment en santé. Ça nous a aidé à embaucher définitivement des gens, mais ça a aussi créé énormément de bruit où est-ce que il y a beaucoup de gens qui voulaient venir chez GSoft sans savoir ce qu'on faisait. Fait que c'est sûr que là, tu te retrouves, t'as plein de CV, mais plein de monde qui sont là parce que ça a l'air cool. Mais oui, c'est cool, mais tu sais, on est, hey, c'est,
on travaille, là.
Mais oui, on travaille fort, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, là. Tu sais, on a des, il y a des responsabilités. On fait des belles choses, des belles et grandes choses. Puis il faut que tu viennes pour les bonnes raisons. Puis le reste, ça devient comme, c'est pas un extra, ça fait partie des attentes dans le monde du travail aujourd'hui. Puis je pense qu'on se démarque beaucoup, puis on va continuer à le faire. Mais nous, on veut s'entourer de gens qui ont envie de travailler sur les beaux produits qu'on a, puis de les amener encore plus loin, tu sais, à la base. Faut que ça parte de là. Est-ce que ça nous a aidé? Je dirais que, oublions la marque employeur. Je pense que la marque employeur était le reflet d'une certaine folie qui est clairement en nous, pas stagé. On est nous, puis on est resté groundé, puis on a décidé d'avoir du fun à travers ce cheminement-là. Ça nous a permis, je pense, de faire des initiatives que la majorité des compétiteurs ou autres entreprises n'auraient même pas osé faire. Fait que dans notre façon de d'écrire les choses, dans notre façon de quand on faisait de la vidéo, je sais pas, il y a tellement de petites anecdotes par-ci par-là, mais cette folie-là qu'on, tu sais, dans le monde B2B, des fois c'est un peu, on a l'impression que c'est une grosse machine qui parle à une autre grosse machine. Tu sais, on pense que les entreprises se parlent entre elles comme si elles étaient des bâtiments quasiment, là. À la fin de la journée, tu sais, je veux dire, on est des humains qui communiquent. Qu'on soit dans le B2B ou B2C, t'sais, on est des l'acheteur, là, c'est une vraie personne assise dans ton ordinateur, là, puis ou l'utilisateur, puis il va observer ce que tu lui montres, puis de cette folie là que tu dégages à travers tes produits, tes initiatives marketing, ben ça a un effet sur les gens, puis ça embarque les gens dans le ce qui est le fun, c'est quand les gens embarquent dans cette folie là. Fait qu'on a on a définitivement réussi, je crois, à connecter les gens avec nos marques. Ça l'a beaucoup aidé pour le bouche à oreille. C'est comme les gens nous appelaient, là, me semble, des conférences. Là, on était comme les cool kids qui appelaient. On tient, genre, il y a 10 ans, 10 quoi, en 2000, le temps passe vite. On revient à 13 ans en arrière dans les conférences Microsoft. À l'époque, là, porter des t-shirts en conférence, là, c'était pas standard, là. On voyait pas. Puis nous, tout le monde était en habit cravate, tu sais, c'était très corporate. Nous, on est là, une gang de jeunes qui arrivent avec juste t-shirts, jeans, complètement vrai devant toi, puis on connaît notre produit. J'ai toujours dit, on se prend pas au sérieux, mais on est vraiment professionnel. Puis je pense que ça s'est ressenti beaucoup de la part de notre audience. Puis je pense que ça a définitivement eu des effets positifs. Mais côté marque employeur, je pense que c'est important de trouver un bon équilibre. T'sais, si vous pensez à d'autres grandes marques employeurs qu'il y a au Québec, on peut tous ressentir que travailler là, ça a l'air le fun, mais la plupart d'entre elles, on sait très bien ce qu'elles font. Et à l'époque, pour nous, c'était un petit peu plus difficile. Puis c'est sûr que nous, on a aussi le défi qu'on est multi-produits. Donc les gens ont « Ah, je connais Office Vibe, je connais pas Sharegate, ah, je savais pas que GSoft était derrière Office Vibe. » Toutes ces choses-là, ben c'est sûr que ça rendait la tâche un peu plus difficile.
Puis parlons-en un petit peu de ce volet multi-produits parce que c'est excessivement fascinant également. Bâtir un produit technologique qui a du succès, c'est un exploit en soi. Le faire deux fois, le faire trois fois, et là, bientôt, vous avez fait une acquisition récemment, c'est le quatrième produit que vous amenez dans la famille GSoft. Tu nous as dit quasiment en intro un certain scoop qu'il va y en avoir un cinquième. Peut-être je te poserai des questions sur le sujet, mais j'aimerais revenir au point de la quantité de produits technologiques que vous avez dans votre portfolio. Quel est le raisonnement derrière ça? J'ai l'impression quasiment, on dirait que c'est fait instinctivement de dire vous avez envie de bâtir des produits, ça vous passionne. Ça crée pas plus de complexité? Ça serait peut-être pas mieux de mettre toutes nos énergies à faire en sorte que ShareGate atteigne encore plus de croissance, même si le produit va déjà bien. Est-ce qu'il y a eu cette genre de dualité-là avec les actionnaires de se dire on mise tout sur un ou au final on bâtit une famille de produits? Je serais curieux de t'entendre ici.
Super bon point. C'est comme je le disais tantôt, ShareGate et Office Vibe ont comme réussi à rentrer dans l'univers GSoft au meilleur moment, dans un contexte où est-ce qu'on a pu leur donner une place de choix dans l'organisation. Fait qu'on est devenu une compagnie qui avait deux produits côte à côte, deux produits à succès qui étaient dans différentes industries. Et au fil du temps, ben il y a pas les choses arrivent. Des fois, on le réalise juste après là, mais l'expérience employée avec les années, on a appris à mieux comprendre ce que ça représentait, et on a réalisé au final qu'on avait deux produits qui touchaient à l'expérience employée à différents endroits sur le spectre, qui est très large. Et les deux produits avaient du succès, puis on a réalisé aussi que ce spectre de l'expérience employée-là avait une panoplie d'autres opportunités. Ça, on l'a compris. Il y a plein de choses à bâtir. Et ensuite, faut pas oublier, il y a eu la pandémie. C'est drôle, la pandémie, là, c'est le moment où est-ce que plein de gens ont soudainement compris que ah ouais, Office 365. Ah ouais, c'est ça qu'on a déployé au bureau parce que sinon on pouvait pas se parler, on pouvait plus communiquer. C'est comme il y a comme eu une réalisation que les plateformes cloud de productivité étaient pas juste un nice to have, c'était absolument essentiel à la continuité des affaires durant la pandémie. Et soudainement, ben Office Vibe, donc quand je passais avec mon équipe, c'est comme difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que le monde, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des enjeux que je devrais connaître. Tu sais, quand t'es en personne, des fois t'es capable de le sentir, mais là soudainement, je suis un gestionnaire, je suis complètement perdu là, j'ai besoin d'aide. Fait que les produits de GSoft ont comme soudainement amplifié en pertinence comme jamais dans le passé. C'est pas que c'était pas pertinent avant, mais là ça devenait comme très clair. Et ce qu'on a réalisé aussi avec la pandémie, c'est que, avec là, on parle de remote work, mais le travail se faisait à travers un écran. Comme, tu sais, avant, des rencontres en virtuel, il y en avait, mais c'était vraiment pas aussi normalisé qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est complètement normal. Prendre un café par Teams, c'est juste ça que je fais. Je veux dire, j'ai pas besoin d'aller dans un café. Fait que l'opportunité, c'est que maintenant, l'attention de l'utilisateur passe à travers la technologie par défaut, la majorité du temps. Fait qu'une fois que tu as cette attention-là à travers la technologie, mais là, il y a un terrain de jeu énorme qui s'est créé, où est-ce qu'il y a un tas de technologies à développer, à bâtir, qui vont venir amplifier cette expérience-là pour venir te donner, pour venir combler toutes les gaps que tu vis quand, tu sais, moi, j'utilise, tu sais, on peut penser à Zoom, on peut penser à Teams, ces logiciels-là qu'on a revu durant la pandémie. Il y en a des boutons qui se sont rajoutés. Des whiteboards virtuels, puis là on peut chatter, puis on peut s'envoyer des documents, puis il y a eu un tas de fonctionnalités qui se sont rajoutées, qui sont venues amplifier l'expérience digitale. Et chez GSoft, nous on est là pour profiter un peu de ce momentum là. Je crois que la pandémie a invalidé beaucoup de logiciels existants parce qu'ils avaient été conçus pré-pandémie. Donc beaucoup d'espace pour la disruption, beaucoup de nouvelles innovations qui peuvent être réfléchies, beaucoup de produits à remplacer, beaucoup de nouveaux produits à bâtir. Et pour nous, ça devient évident que on peut pas être un single product company. On veut s'attaquer à différents...
La mission est trop large, là.
Ben, soyons honnêtes, on aime beaucoup bâtir des logiciels. Cette diversité, cette variété de logiciels au sein de GSoft pour moi, c'est une force. Ça nous fait voir plein de choses. Ça nous fait, il y a tellement de perspectives différentes de comment nos logiciels interviennent dans la vie de l'utilisateur. Et pour moi, il y a trop de belles opportunités pour se restreindre à ce qu'on a. Puis, SugarGate et Office Vibe continuent de se développer à vitesse grand V, continuent de se diversifier. On a Didact qui s'est joint à la famille de produits GSoft tout récemment, qui est tout le volet LMS, donc le Learning Management System. Et aujourd'hui, on parle, je sais pas si c'est moi, c'est ce que moi je lis, là, mais je sais que c'est assez tendance. Tout ce qui est upskilling, reskilling, c'est comme devenu... on est dans un monde où est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, ça, on entend parler. Fait que les entreprises doivent miser sur l'upskilling et le reskilling des employés qu'ils ont. Fait que des plateformes comme Didact, c'est complètement... Côté timing, c'est parfait. On a SoftStart qui est tout au niveau de l'onboarding des employés. Avant, c'était la petite poignée de main à 9h le matin, le lundi, à la première journée, à la porte d'entrée du bureau. Aujourd'hui, ben, on est accueilli dans les organisations à travers notre écran d'ordinateur. Fait que l'onboarding s'est un peu transformé. Opportunité là. Et prochainement, mois d'avril, je dis que c'est un scoop, mais on a commencé à en parler un peu. Mais on arrive avec un nouveau produit qui va se concentrer, dédié à tout ce qui est gestion des compétences des employés. Fait que je vais pas trop en dire, mais on s'intéresse à comprendre quelles sont les compétences que chaque employé, les compétences que possèdent tous les employés d'une organisation. Quand tu connais les compétences que les gens possèdent, tu es capable de les aider dans leur carrière sur les nouvelles compétences à développer. Tu es capable de les aider à choisir des rôles qui sont des évolutions de leur rôle actuel. On peut les aider à joindre des experts, les bons experts pour les aider à progresser. Il y a tout un univers qui s'offre à nous une fois qu'on est capable de rapidement connaître quelles sont les compétences de chaque personne. Parce qu'aujourd'hui, il risque une centaine d'employés. C'est difficile de savoir que Simon est bon à faire ça, 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 ça. Des fois, tu le sais parce que c'est ton collègue, c'est un ami, tu lui as déjà parlé, mais bien souvent, tu n'as jamais parlé à la personne et tu n'as aucune idée. Imagine la quantité, le potentiel et le temps qu'on peut sauver quand on comprend réellement tout ce que chaque personne peut amener à la table. Je m'arrête là, je ne sais pas plus. On arrive avec quelque chose au mois d'avril.
Ben, puis j'imagine aussi pour des potentielles acquisitions d'entreprises, quand tu arrives puis tu veux évaluer un petit peu quelle entreprise tu viens acheter, tout ça, puis là, tu es capable de regarder dans un logiciel quelle force il y a à droite, quelle force il y a à gauche, et tout ça, tu es capable d'avoir ça très, très rapidement. C'est des choses que des acheteurs potentiels d'organisations veulent savoir, souvent dans une main-d'œuvre qui va être acquise. Et là, ça, c'est un exemple, mais il doit y en avoir des dizaines que vous avez mis sur un tableau blanc, des avantages qu'une plateforme de la sorte peut venir aider des organisations.
Aujourd'hui, c'est par la force des choses. Pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les entreprises doivent se retourner vers le staff qu'elles ont. Le problème, c'est que des fois, tu n'as aucune idée de tout le talent caché que tu as déjà. Puis souvent, on a tendance à vouloir embaucher plus de gens. On a un nouveau problème à régler. Hey, on va embaucher. Alors que si on fouille pour vrai, des fois, on réalise que le talent, on l'a déjà. Il suffit d'être capable de le trouver. Quand tu le trouves, mais tu es capable. Ma croyance derrière ce nouveau produit-là, c'est que les entreprises sont capables de faire beaucoup plus qu'elles le pensent. Et c'est ce qu'on va essayer de leur prouver avec ce qu'on va lancer bientôt. Fait que c'est GSoft. On est, tu sais, là, je te parle de ce nouveau produit-là. On va continuer d'en bâtir. On a fait un choix conscient qu'on allait développer une gamme de produits qui sont tous à des endroits différents dans ce qu'on appelle l'expérience employée. Certains produits vont être plus proches l'un de l'autre, il va y avoir de la synergie. D'autres produits vont être un peu plus loin, mais c'est nous, on s'intéresse à l'expérience employée et on peut imaginer des centaines de produits. Je crois pas que GSoft va avoir des centaines de produits, là. Ça serait peut-être exagéré de dire ça, mais en termes d'opportunités devant nous, il y a des opportunités, il y en a plein. Fait que je nous vois très bien bâtir d'autres très beaux produits dans les prochaines années. Puis c'est un peu le rôle que j'ai dans l'organisation aujourd'hui.
Et parlons didacte maintenant. Donc, c'est la première fois que vous faites une acquisition. Habituellement, vous les avez bâties par vous-même. Là, cette fois-ci, vous avez fait une acquisition. Quel est le raisonnement derrière et est-ce que ça laisse présager d'autres acquisitions dans le futur?
Didacte, c'est un beau produit, un bon market fit. Le produit a de la synergie avec nos produits existants et même les produits futurs, celui que je viens de parler. On pense à la tendance de l'upskilling, reskilling, qui est super important. Donc, capacité aux organisations d'aider leurs employés à développer leurs compétences. Fait qu'un système d'apprentissage est tout à fait aligné avec ça. Et c'est sur les lèvres de tout le monde en ce moment dans l'univers HR de comment je fais pour amener ma gang à un autre niveau. Puis, super belle équipe. Fait que c'était comme un fit naturel.
Ça s'est fait naturellement.
Oui, puis tu sais, c'est une petite équipe, c'est une dizaine de personnes. Fait que pour nous, c'est notre première acquisition. Fait que, puis je pense que c'était la meilleure acquisition qu'on pouvait faire. Ça nous a permis d'apprendre sur ce processus-là. Une compagnie qui a été habituée de tout bâtir soi-même, qui doit apprendre à comment on fait ça une acquisition, comment on évalue une acquisition, comment on intègre les gens une fois que on est fait, comment on donne une place à ce nouveau produit-là dans la famille de produits, comment on fait profiter aux autres produits de ce nouveau produit-là et vice-versa. Il y a tout plein de bels apprentissages pour nous. Fait que c'était vraiment... Tous les astres étaient alignés. Et je pourrais peut-être être... Je dois avouer que j'ai longtemps été contre l'idée de faire des acquisitions. Je suis comme un peu un puriste. Fait que dans ma tête, j'avais envie qu'on développe tout nous-mêmes. Et j'ai été longtemps cette personne-là qui était comme non. Puis c'est sûr que quand tu tombes en mode acquisition, ben, tu sais, faut que tu les achètes, tes acquisitions. Fait qu'on n'a pas toujours été en position financière de pouvoir, ça allait un peu changer notre modèle, notre modus operandi de si on commençait à faire des acquisitions comme on peut voir, comme des Coveo, Lightspeed de ce monde ont fait, tu rentres dans une autre game. Il y avait aussi un côté moi qui était, j'ai envie qu'on les fasse nous-mêmes, c'est le chien-là.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est sûr que avec le temps, puis tu sais, aujourd'hui, je suis juste plus, faut juste être très très honnête face à la situation. G-Soft aujourd'hui est ce qu'on appelle un centaure. Le Centaur, c'est la compagnie qui fait plus de 100 millions d'ARR par 100 millions US de AR.
C'est exceptionnel.
C'est un chiffre qui a aucun bon sens pour moi. Ça n'a jamais été... By the way, j'ai jamais pensé qu'on allait même être proche de ça.
Mais là, vous êtes une licorne. Là. Soyons honnêtes. Vous avez une valorisation qui doit frôler le milliard. On peut l'extrapoler.
Juste finir mon point là-dessus. Quand tu es dans ces chiffres-là, faut comprendre que développer à l'interne, tout, ça prend du temps. Tu sais, ça a pris du temps à un Office Vibe et à un ShareGate, et ça va prendre du temps à un Soft Start de commencer à générer sur le top line des montants qui ont un effet sur un chiffre comme 100 millions. Fait qu'on va continuer de le faire, mais ça, c'est une game qui est un peu plus long terme, mais des acquisitions, ça te permet d'accélérer cette croissance-là, juste de la maintenir. Puis l'idée, c'est pas juste d'acheter des revenus, c'est aussi de concrétiser stratégiquement ce que tu essaies d'accomplir. Et j'ai compris qu'il y a des super beaux produits qui ont déjà du succès, qui ont déjà une équipe, qui a déjà comme du momentum, et ça serait fou de pas les considérer. Fait qu'aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis sur le sujet. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on achète de la technologie qui est alignée avec le craft qu'on fait chez G-Soft. On aime bâtir du logiciel, on aime la qualité. Tant que ça respecte ça, moi, je suis ouvert à... Je veux dire, c'est je
trouve ça... Le magasinage est ouvert, là.
Ouais, oui, c'est excitant. Puis, côté timing aussi, le marché a quand même changé.
Bien sûr.
Si on regarde un peu les nouvelles, on comprend que l'univers technologique est frappé fort ces temps-ci
Mais vous, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, puis bien entendu, je fais uniquement des assumptions ici, corrige-moi si je me trompe, je t'en prie, mais en n'ayant pas pris cette approche de croissance à tout prix et de uniquement prendre de l'argent que vous n'avez pas pour aller engager continuellement. Vous l'avez financé par vous-même. Les entreprises qui sont beaucoup touchées en ce moment sont des entreprises qui continuellement sont allées chercher ce capital-là. J'imagine qu'à un certain point, au final, dans la dernière année, vous avez été en meilleure position que beaucoup de ces joueurs qui, au final, quand l'argent ne rentre plus des investisseurs, ils se retrouvent avec pas grand-chose, là.
Définitivement, la pandémie n'a pas aidé, là. C'est drôle parce qu'on est tous tombés un peu dans le piège qu'on a normalisé cette abondance de capital qui déferlait. Puis c'était comme, même alors que historiquement, il y avait plein d'indices comme quoi que c'était une bulle. Et oui, ça l'a définitivement. On essaie d'être sharp dans la manière de bâtir GSoft. On essaie de, tu sais, nous, en 2006, on s'est dit, nous, on fait une business, on va être profitable du jour 1 à pour toujours. Tu sais, c'est comme, on dirait, des bases pour moi, des bases de comme quand tu as une entreprise, ben, faut que tu essaies de faire plus que combien ça te coûte. Tu sais, il y a comme.
Ben oui.
Il y a comme quelque chose. Ça m'a toujours dépassé un peu à quel point c'est correct de juste perdre des centaines de millions à chaque quart. Puis, des fois, c'est justifié, mais des fois, ça ne l'est pas du tout. Puis, je veux dire, ça n'a jamais été notre game. On essaie d'être une business. On a toujours été une business en santé financièrement. On fait attention à l'argent qu'on dépense. On prend des risques, mais on est bâti drôlement différemment que ce qu'on peut voir à l'extérieur. Puis c'est sûr que pendant la pandémie, alors qu'il y avait toute cette folie-là, on était comme... Tu sais, des fois, tu regardes autour de toi et tu te demandes si c'est toi l'intrus. T'es comme, OK, ben, peut-être c'est nous qui sait pas. C'était nous le problème, on comprend pas. Puis là les salaires, puis tout était complètement... Qu'est-ce qui se passe? On est-tu comme... Là, soudainement, chou, ça l'a switché. Des mass layoffs partout. Il y a comme eu un revirement de situation. Soudainement, là, faire des profits, c'est redevenu cool. Là.
C'est là, incroyable, comme, hein? Quand on y pense, là.
17 ans que nous autres, on fait ça, là. Puis ça prend tout pour que les gens nous écoutent puis trouvent ça... Comme avant, c'est vraiment cool. Mais avez-vous levé de l'argent? Tu sais, c'était comme... On n'était pas intéressant parce qu'on n'avait pas ces éléments-là. Alors qu'on avait des fondamentaux qui étaient excellents. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour du balancier. Je pense qu'il y a un... Ben, je pense pas, là. C'est, en ce moment, on revient aux fondamentaux d'une business. Et je pense que ça... Aujourd'hui, on est dans une super bonne posture pour continuer d'avoir du succès encore longtemps. Puis ça, c'est 17 ans de travail, de patience, puis de rigueur qui nous amène, puis de pas déroger de notre game plan, puis ça l'a payé.
C'est fantastique tout ça. Puis j'aimerais t'entendre un petit peu sur le volet du travail, très simplement. Bon, vous avez été connu, vous êtes toujours connu d'ailleurs, pour avoir... des gros bureaux, des bureaux, on pourrait dire, assez extravagants. Bon, comme chaque podcast que je fais avec mes invités, j'aime faire beaucoup de recherches pour voir un peu ce qui s'est déroulé avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie. Et quand la pandémie s'est frottée à vous, vous avez pris l'option de dire, on est une entreprise maintenant qui, bien entendu, a des bureaux, mais les bureaux ont été rétrécis, si ma mémoire est bonne, et tu me corrigeras ici, qui ont changé un petit peu, et vous encouragez le travail distribué. Vous encouragez le travail distribué. Tranquillement, on sort de cette pandémie-là. On est sorti, soyons honnêtes. Et comment tout ça se met en place? Est-ce que là, finalement, on a un taux de présence au bureau qui est revenu très élevé? Est-ce qu'on veut réagrandir les bureaux? Est-ce qu'on garde cette vision de travail distribué? Est-ce qu'on est capable de bâtir une culture forte à distance? Comment tout ça se met en place?
C'est tout un revirement de situation pour nous. Tu l'as dit, nos bureaux. Depuis qu'on a commencé à se bâtir des bureaux il y a plusieurs années, on a toujours voulu... avoir des bureaux qui sortent de l'ordinaire. Ça a toujours été... tu sais, on s'est dit, c'est notre espace de travail. On va faire quelque chose qui... On va laisser notre folie se vivre à l'intérieur de ces bureaux-là. Puis on a toujours investi massivement. Et c'est sûr que avant la pandémie, 2-3 ans avant, on a Lumen Poles, qui était quand même une compagnie connue au Québec, qui a été... Il était au Nord-de-Lec, au rez-de-chaussée. Ils ont déménagé à Longueuil, et on est allé visiter les entrepôts de Lumen Pulse, puis c'était, tu sais, je veux dire, il y a rien qui donnait l'impression que ça pouvait être un endroit qui est le fun. C'était des entrepôts, les fenêtres étaient toutes comme sales, fait qu'on voyait pas de lumière. C'était 100 000 pieds carrés, fait qu'on on s'est laissé convaincre de parce qu'à l'époque on G-Soft était sur 3 étages, on a ramené tout le monde sur le même étage, rez-de-chaussée. On a investi plus de 10 millions de dollars dans cette faut pas oublier, c'est notre argent, c'est pas l'argent de c'est l'argent qu'on a durement gagné là, on l'a dit, on le met dans le bureau, on y croit. Ça va être rez-de-chaussée, Pointe Saint-Charles, ça c'est notre coin à nous. Et genre 2 mois avant la pandémie, on avait coupé le il y avait comme une banderole là, devant le bureau. On a fait l'inauguration de la dernière section qu'on venait de parce que ça s'est fait en étapes. Et après ça, la pandémie a frappé. Fait que c'est sûr que nous, là, on croyait en la pertinence du office centricity, être au bureau, présence en personne. On embauchait quasi strictement des gens Montréal et les environs. C'était G-Soft, ça, avant la pandémie. Puis la pandémie, ben ça a été un coup dur d'un seul coup. Faut apprendre à travailler différemment. Puis on a réalisé que c'était une distraction à notre potentiel de création chez G-Soft, notre productivité. On avait perdu, je crois, des réflexes de base pour rester une entreprise forte et compétitive dans le marché. Et la pandémie nous a forcé à repenser nos façons de travailler, repenser la collaboration, repenser à la réunionnite, là, les meetings sans arrêt, tout. Et ça a remis en question plein de choses. Puis on s'est retrouvé quelques mois plus tard à juste réaliser que soit qu'on essaie de se convaincre qu'il faut justifier pourquoi on a investi autant dans le bureau, ou on regarde en avant. Puis l'argent qu'on a mis dans ce bureau-là, on va le récupérer autrement parce qu'on va juste développer une business qui est plus forte. Une business qui je crois, on était défini trop par ce bureau-là. Dans l'équation G-Soft, le bureau était une trop grande variable. C'est comme G-Soft. Je veux que les gens viennent chez G-Soft, pas pour le bureau, pas pour les gens, non pour les projets, non. Fait que le bureau, c'est cool, là, quand t'as les moyens, amuse-toi, fais un beau bureau, mais quand ça devient trop le centre de ton organisation, c'est très superficiel, un bureau, au final, là. Tu sais, c'est des murs, un plancher, des espaces, des salles. Fin de la journée, c'est pas ça qui devrait définir une entreprise. On l'a compris. On a décidé que le bureau allait devenir plus secondaire. On allait le garder et qu'on allait devenir une entreprise qui travaille en mode distribué. Et non seulement ça allait nous donner, changer nos façons de travailler, ça allait nous donner plus de flexibilité. Juste moi, personnellement, j'ai vu mes enfants je dîne avec mes enfants tous les jours. Je veux dire, j'ai jamais créé autant dans toute ma carrière. Puis j'ai une qualité de vie qui, je crois, est meilleure qu'elle était avant. Fait que j'ai comme tout de mieux qu'avant dans ce contexte-là. Et d'être aussi en mode de travail distribué, ça nous a permis aussi maintenant de recruter partout au Canada. Fait que là, aujourd'hui, il y a des employés de G-Soft qui habitent à Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto, Montréal, l'île du Prince-Édouard, comme Canada-wide. Là, on a des gens partout dans le pays, du talent qu'on n'aurait pas pu avoir, parce que le monde n'irait pas déménager à Montréal, on les aurait même pas trouvés. Fait que c'est... Puis, un autre truc hyper important, c'est la tendance va vers là. Aujourd'hui, c'est OK, je vais l'accorder. Les entreprises vont pas faire un remote first, un changement remote first en grande majorité. Mais le travail en mode hybride est là pour rester.
Comme, ben oui, c'est sûr.
Ça s'en va pas nulle part. Fait que nous, de nous mettre dans ce contexte-là au quotidien, je crois que ça va nous aider à bâtir des meilleurs produits pour nos clients. L'idée, c'est si on le vit pas nous-mêmes, comment on peut bâtir les meilleurs produits pour les clients qui vont vivre ça? Fait qu'on est les meilleurs cobayes de nos produits et de travailler de cette manière-là. Pour nous, c'est un peu d'y aller en avant, de le vivre avant que les autres le vivent et d'affronter tous les obstacles qui viennent avec ça et de créer des meilleurs produits qui viennent régler ces obstacles-là. Fait que, comme honnêtement, je vois pas de... La seule chose qui est triste là-dedans, c'est évidemment, c'est l'investissement massif qu'on a fait dans le bureau. Mais tu sais, personne qui le savait, personne n'a vu venir ça. Puis aujourd'hui, ben, regarde, ça arrive. Là, on a fait le call, c'était pas nécessairement le meilleur call. Shit happens. On tourne la page, puis ça fait partie de notre cheminement. Puis aujourd'hui, le bureau, on le sépare en deux parce que quand il y a des gens qui viennent au bureau, ben si on garde le 100 000 pieds carrés au complet, ça se peut que tu vois aucun humain dans toute ta journée. Fait qu'on a dit on va restreindre l'espace pour comme un peu créer les collisions. Puis on est en train d'essayer de sous-louer l'autre section, mais il y a personne qui y va là. Ça c'est.
Puis dis-moi dans ce cas-là, vous qui connaissez autant la culture employée, qui vous étudiez les comportements des employés dans des entreprises pour bâtir des produits technologiques, comment un entrepreneur, un chef d'entreprise qui nous écoute aujourd'hui peut améliorer, bâtir une meilleure culture d'entreprise avec ses employés dans un contexte distribué? Il y a des façons. J'ai l'impression que tout le monde est en train de découvrir ces façons-là parce que personne ne l'avait tellement fait avant. Autre peut-être que Basecamp qui, eux, ont commencé très, très tôt. WordPress également. Mais comment on arrive à bâtir cette culture-là d'organisation en ayant des gens qui travaillent de partout au Canada, de plein d'endroits différents et qu'on se voit rarement?
Je ne sais pas encore, honnêtement. Ce que je peux te dire, c'est... Ce qu'on vient de vivre avec la pandémie puis ce shift-là à mode hybride ou remote complet, faut accepter qu'on gagne certaines choses puis on perd d'autres choses. Moi, ce que j'entends souvent, c'est les gens qui veulent le côté positif que ça l'a amené, mais ils veulent pas le côté négatif. Mais tu sais, la vie est pas comme ça. Comme on gagne certaines choses puis on en perd d'autres. Puis à un certain point, c'est une question de choix de vie. Je crois qu'on nous, on a trouvé un équilibre qui est raisonnable. Le bureau, on l'a gardé. Il est là pour ceux qui veulent y aller. Malheureusement, il est juste à Montréal. Fait que c'est sûr que les employés à Vancouver, c'est pas pour eux. Ils pensent pas au bureau. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de rassembler les gens 3 fois par année, minimum. On rassemble toute l'organisation, 100% des gens. Et c'est un peu une manière de faire le plein de foule, de rencontrer les gens, connecter. C'est un moment où est-ce qu'on discute stratégie d'entreprise, où est-ce qu'on s'en va. C'est comme tu vas recharger un peu la batterie et tu vas te remplir la tête d'idées de connexion humaine. Tu retournes après ça où est-ce que tu travailles au quotidien. Puis il y en a, la semaine d'après, ils retournent au bureau parce qu'eux sont au bureau chaque jour. Il y en a qui retournent à Vancouver. Et ce 3 fois par année-là est d'une intensité qui, je crois, est plus positive qu'à l'époque où est-ce qu'on était au bureau chaque jour. Parce que quand on était au bureau,
vous faites ça?
On se voyait, mais on se voyait pas vraiment. On se croisait, mais on se prenait pour acquis. Ouais, on travaillait au bureau. Oui, on était physiquement un à côté de l'autre, mais à quel point on l'appréciait. Quand on l'a perdu pendant la pandémie, c'est vrai que, oh, OK, c'était le fun quand même d'avoir ces gens-là autour de moi. Ça faisait du bien. Mais là, aujourd'hui, c'est comme, OK, on va le retrouver, ce moment-là, mais on va en faire des moments organisés, intentionnels, où est-ce que on va arriver avec un esprit ouvert de comme, je m'en viens connecter avec des gens, je m'en viens construire quelque chose pendant 3 jours, et ensuite, ben, je retourne chez nous. À date, honnêtement, j'aime beaucoup j'aime ça. Je trouve que c'est des rassemblements qui ont été hyper payants, je crois. Puis
dis-moi, tu vois, là, je rentre en mode curieux ici, je me prends des notes là, en t'écoutant. Là, les rassemblements, vous les faites? Combien de jours durent-ils? Est-ce qu'ils sont 50% business le matin, 50% activité l'après-midi? Bien entendu, je te demande pas de nous révéler toute ta sauce secrète, mais peut-être si tu peux nous donner l'idée globale. Là.
Bien, on a fait 2 à date. Un qui était plus business, fait que c'était un 3 jours. Il y a eu à travers ça, exemple, tu sais, le deuxième soir, chaque équipe, chaque gestionnaire de l'organisation a booké un restaurant pour son équipe. Fait que là, tu avais les 400 employés de GSoft un peu partout dans tous les restaurants de Montréal à passer du temps avec leur équipe respective. Et le troisième soir, il y avait une soirée de fermeture avec bonne bouffe, bon DJ, juste bonne ambiance. Et dans le jour, ben, c'était des conférences sur différents sujets clés dans l'organisation. C'était vraiment des éléments d'affaires, là, comme comment on aligner tous les gens sur ce qu'on a, sur ce qu'on essaie de bâtir, différentes activités clés à travers ça. Fait que ce rassemblement-là, 3 jours, était business. On en a refait un en décembre qui était une journée et demie-ish. Ouais, le premier, c'était aussi sur l'innovation. Les équipes se sont formées pour commencer à discuter sur des innovations. Mais bref, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est on a demandé à 4 ou 5 organismes communautaires autour de Pointe-Saint-Charles de venir pendant ce moment-là avec nous. Puis on a fait travailler tout le monde sur différentes initiatives. On avait monté des bicyclettes pour comme cadeau de Noël. On avait préparé de la nourriture, des sacs de nourriture. Puis c'était comme plein d'activités plus axées sur la communauté. Puis ça, c'était pour le contexte de Noël. Fait que c'était une manière un peu de dire comme ça, c'est un peu notre souper de Noël ensemble. Puis là, en avril prochain, on en a un autre qui est le début de notre année fiscale. Fait que ça, c'est alignement pour la prochaine année fiscale où est-ce qu'on va parler stratégie, roadmap, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les obstacles, puis on va faire travailler les gens sur comment on... J'ai pas l'horaire exact, mais
je comprends les grandes lignes, bien sûr.
Mais c'est moi, je trouve ça, honnêtement, j'aime mieux magnifique. Faire ça que d'être au bureau chaque jour avec... Puis tu sais, j'y vais au bureau à tous les semaines ou deux, tu sais, je vais faire mon tour, voir du monde, mais tu sais, c'est toujours... c'est très peu de gens qui vont au bureau. Le jeudi, c'est là qu'il y a le plus de monde.
Ouais.
C'est une cinquantaine de personnes, puis des fois 75, mais c'est assez tranquille, la règle générale.
J'aimerais terminer peut-être, Simon, question plus personnelle. Lecture, on a parlé plus tôt de Basecamp. Est-ce que ça serait Jason Fried qui pourrait ressortir dans tes lectures préférées du monde des affaires, ou du moins même, est-ce que tu lis certains livres d'affaires qui ont marqué ton imaginaire?
J'ai beaucoup lu des livres d'affaires, mais maintenant, là, quand je lis des trucs d'affaires, j'angoisse en lisant. Je suis pas capable de rester en place. Genre, je lis quelque chose, puis je suis comme, là, je pense, puis là, je veux régler cette chose-là. Fait que j'ai comme développé je l'ai trop lu. Je pense que j'ai besoin d'un repos de quelques années pour me reset. Et cette année, je me suis tenté à lire de la fiction, chose que j'ai jamais fait, je pense, à part au cégep peut-être, même moins. Fait que j'ai lu le Fairy Tale de Stephen King, puis ça me faisait du bien parce que ça permet complètement de déconnecter de justement de la business. Si je pense à des livres d'affaires qui m'ont marqué, définitivement Jason Fried, puis... Faut juste pas boire trop le Kool-Aid parce qu'il exagère, puis c'est correct dans son, c'est sa job d'exagérer puis d'en mettre plus que. Mais c'est tannant quand tu prends tout ce qu'il lit, il exagère des fois. Fait que
faut faire attention dans tout, hein, dans tout. Faut être capable de mettre des filtres parce que, comme tu l'as dit plus tôt dans l'entretien, il y a des modèles qu'on peut regarder, mais chaque personne a son histoire différente et c'est important de prendre un modèle, mais de ne pas le calquer à 100% parce que malheureusement, il y a des réalités différentes. Jason Fried, il l'a commencé il y a bien longtemps. Je suis en train de lire cette semaine son livre sur Office is Not Needed. C'est un livre qui a été écrit en 2013. Là. En 2013, il n'y avait pas de pandémie. Il y avait ce qu'on commençait avec Skype. Tout ça, c'était des réalités différentes. T'sais. Donc, mais tout de même, il y a des fondements qui sont intéressants de voir qui ont été capables de perdurer à travers le temps. Mais clairement, on peut pas prendre tout ça de A à Z. Là. Il y a des situations temporelles qu'on doit considérer quand on fait des lectures. Sinon, à la fin de la journée, on se pose des questions. Pourquoi ça marche pas de la même manière pour nous? Hein?
Sinon, un autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Delivering Happiness de Tony Hsieh, qui a eu quand même un... Tony Hsieh nous a fait comprendre l'importance du customer support. Et aujourd'hui, je peux dire avec confiance que c'est probablement un des facteurs qui nous a donné beaucoup, beaucoup de succès. Tu sais, appeler quelqu'un, appeler une ligne de support puis tomber sur des gens qui care pour vrai, là, c'est rare. Puis quand ça arrive, on s'en souvient. Et c'est ce qu'on a fait avec nos clients. Puis c'est ce qu'on... On s'est fait connaître beaucoup pour c'est grâce à Tony Hsieh, je dois dire. Il m'a tellement marqué que j'étais comme, faut faire vivre du happiness à nos clients qui appellent. Faut qu'ils vivent de quoi. Puis je pense que ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Fait que,
c'est ce qui a fait attirer d'ailleurs l'attention de Jeff Bezos à son égard, qui a eu l'acquisition par la suite de Zappos, qui a été acheté par Amazon. Podcast, en écoutes-tu quelques-uns?
Ben, j'écoute le tien.
Ah!
Mais là, depuis que tu as diffusé Guillaume, là, j'écoute, je vois passer. Mais celui que j'écoute religieusement, c'est All In Podcast. Pour moi, c'est le macroéconomique que j'avais pas dans mes compétences. Puis j'aime beaucoup. C'est la vision de venture capitalistes sur comment la technologie. C'est leur vision sur le monde technologique et le monde politique en même temps. Mais pour ceux qui s'intéressent à la politique pour macroéconomique, c'est définitif. Et la technologie, bien sûr, c'est quand même solide. Là.
Des solides, ils ont des le panel qui fait partie de All In est exceptionnel. Ils ont des gros invités. Musk est allé quelques fois. C'est un très, très gros podcast. C'est peut-être Simon, j'aimerais terminer. Te parler plus tôt que tu manges avec tes enfants tous les jours. À quoi ressemble la routine matin, avant le travail, pendant ou après le travail de Simon Deben?
La seule en fait, je dîne avec mes enfants tous les jours. Plus avec ma fille depuis qu'elle va à l'école, mais avec mon gars maintenant. Mais c'est la seule chose qui est la même à tous les jours. Le reste, c'est complètement imprévisible. Puis j'aime ça de même.
Pas de routine. OK.
La seule autre routine, c'est un bon café tous les jours. Mais non, sinon le reste, c'est complètement... je me laisse emporter par la vie et ce qui se passe. Non, pas de routine. J'ai pensé, j'ai une routine.
J'ai pas de routine. Tu vois, ce qui est fascinant, c'est que moi, j'étais convaincu que la majeure partie des chefs d'entreprise étaient chronométrés à la minute près. Bref, tout ce qu'on voit dans les livres, tout ce qu'on voit dans les films. Et finalement, en faisant le podcast, on a passé 200 épisodes maintenant, c'est 50-50. 50% c'est très millimétré, militaire même. L'autre 50%, je pose des questions, ça prend du temps, mais qui donne une réponse parce qu'il n'y en a pas de routine. Donc, moi, ça a été une de mes belles découvertes. Il y a des gens qui en ont et c'est pas vrai que tout le monde en a de besoin. Souvent, les meilleures routines pour des gens, c'est de ne pas en avoir, paradoxalement.
Non, j'ai pas de routine. Des fois, je m'arrête puis j'observe les chevreuils qui passent devant ma fenêtre. Puis là, je reste figé à les regarder, complètement absorbé par quelque chose de tellement simple. Mais
ça nous ramène à l'essentiel. Mais écoute, Simon, je veux le redire là, c'est félicitations. C'est un exploit que peu de gens arriveront à faire que ce que tu as fait avec tes deux partenaires, ce que vous avez fait en tant qu'organisation, bâtir 4, bientôt 5, on va dire plutôt bâtir 3, acheter 1 et bientôt avoir 5 produits technologiques dans le portfolio, c'est formidable. Atteindre des revenus de 100 millions de chiffres d'affaires américains à l'année, c'est impressionnant. Vous continuez à grandir, vous êtes jeune, c'est beau. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et si on veut en apprendre plus sur GSoft, à la vitesse que vous avez une croissance en ce moment, j'imagine peut-être vous avez des postes ouverts. Peut-être si on veut en apprendre plus sur les produits, c'est Internet. Est-ce que vous avez un site mère pour l'ensemble des produits ou est-ce que tout est séparé par entité?
Je pense que de nous suivre, on est assez sur LinkedIn. C'est pas mal là que tout sort. On peut me suivre sur LinkedIn ou suivre GSoft. Évidemment, on a gsoft.com, mais c'est là que ça se passe. C'est intéressant aussi d'aller voir les différents produits. Ils ont chacun leur un site respectif. Fait que j'invite tout le monde à aller lire ça, regarder. Et si les gens ont des questions, pas hésiter à m'écrire. Parfois, j'essaie de trouver du temps pour répondre. Je promets pas une réponse immédiate, mais je fais mon gros possible.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis, à chaque semaine, j'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.